Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Fulgence Blau au micro, Maurice Bolduc à la console. Allez, on va tout de suite en première partie d'émission avoir notre chroniqueuse de nutrition Louise Thibault qui va nous parler de nutrition bien sûr. Et en deuxième partie, un invité, Kaven Gauthier, conseiller communication du parc Jean Drapeau. Les détails un peu plus tard. Belle complicité artistique, musicale bien sûr. Voilà, avant de continuer en musique plus tard, on a notre chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault, la grande Louise Thibault qui est avec nous déjà, pour parler de sa chronique d'aujourd'hui, la mémoire, une affaire de sens. Oui, l'odorat et du goût, des sens liés entre eux et aussi avec la mémoire. Bonjour Louise.
Exactement, Thibault. Bonjour Fulgence, ça va bien?
Je vais bien, merci. Toi. Alors,
Oui, je vais vous parler de la mémoire et des sens. Je vais vous parler, d'abord, je voudrais vous préciser que
oui.
L'odorat et le goût sont intimement liés. Et cela est tout à fait normal parce que la nourriture, elle fait un passage obligé sous notre nez. chaque fois que nous en prenons, et puis aussi à chaque gorgée aussi. On n'a pas le choix, là, ça passe en dessous du nez, donc on sent d'abord.
Oui.
Et c'est pour ça que parfois, il est très, très difficile de dissocier le goût de l'odeur des aliments. On dit que ça goûte bon, mais en fait, peut-être que ça sent bon.
Ça sent bon,
oui. C'est ça. Alors, on attribue souvent au goût ce qui est en réalité est causé par l'odeur d'un aliment. Alors, pour vous y retrouver, vous pourriez peut-être songer à manger avec un pince-nez ou à vous pincer le nez.
Ça, tu vas me pousser à essayer ce soir, toi.
Ben oui,
Louise, tu vas me pousser à
Oh, mais si vous avez le rhume, ou que je ne vous souhaite pas, mais en tout cas tout d'un coup que ça arrive, que vous amenez le nez bloqué, et bien là le goût des aliments va vous paraître édulcoré, mais en réalité vous aurez la sensation du goût véritable des aliments.
Sans sentir.
Et oui, sans sentir. Et le goût et odeur sont quand même complémentaires parce que l'un peut encourager l'autre. Par exemple, il y a certaines odeurs qui vont accentuer le goût, dont une odeur sucrée va augmenter la sensation de goût sucré. Alors, une pâtisserie qu'on sent dans une boutique, dans une boulangerie qui sent le sucré, ben lorsqu'on va la manger, le goût va être vraiment magnifié par l'odeur sucrée.
Ouais, lui, tu me fais penser à dans mon ancienne vie quand je passais devant la boulangerie non loin de chez moi et le goût, l'odeur du pain,
oui.
L'odeur du pain chaud et puis pas seulement les baguettes, les croissants aussi. Je pouvais pas rentrer chez moi sans toutefois frapper à la porte du pâtissier et dire j'ai besoin de quelques croissants ou bien d'une baguette.
Ça,
c'était un rituel pour moi, quoi, en tout cas.
C'est bien, mais il faudrait le conserver, ce rituel.
Ah, voilà. Non, mais...
Et parlant d'odeur, les odeurs sont beaucoup plus complexes que les goûts. Et c'est l'odeur d'un aliment qu'on perçoit en premier. Ouais. Donc, il y a des boissons qui sont extrêmement aromatiques et la science a démontré que certaines boissons étaient les plus aromatiques de toutes les boissons.
Okay.
Pouvez-vous penser à un breuvage qui est extrêmement aromatique?
Ah non, je suis pas trop boisson, je suis limité à la bière et puis c'est tout, quoi.
Et vous aimez le café et le thé?
Le thé, oui, mais pas le café.
Bon, alors, le café et le thé, également, figurent parmi les boissons les plus aromatiques qui soient. En fait, il y a plusieurs centaines de composés aromatiques qui contribuent à l'odeur du café et du thé, ce qui fait qu'il est très difficile de les imiter dans des substituts de café et de thé parce que c'est extrêmement complexe. Et ce qui est complexe aussi, c'est le nombre d'odeurs que nous pouvons différencier. Alors, croyez-vous qu'on peut différencier une centaine d'odeurs ou des milliers d'odeurs ou même plus que des milliers d'odeurs?
Ah, plus que des milliers d'odeurs.
Plus que des milliers d'odeurs.
Oui.
Bon, vous avez raison, mais pas tout à fait.
Oui, corrige-moi, Louise.
Oui, en fait, l'être humain peut différencier quand même de 2000 à 4000 odeurs différentes.
OK.
C'est pas rien, hein?
OK. Oui, c'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup quand même. Et les nez, vous savez, les gens qu'on engage dans les compagnies de parfums, en parfumerie, ils peuvent en différencier encore plus. Alors, le monde des odeurs, il est très vaste, à la lumière des parfums.
Ah oui. Oui.
Oui. Et les odeurs, elles ne sont pas uniquement propagées par les aliments et les boissons. Il y en a partout. Quand on mange dans un restaurant, sur une terrasse, on est entouré de personnes qui dégagent certaines odeurs, des parfums, par exemple. Évidemment...
Ah là, tu parles de nos parfums, de nos odeurs individuelles.
Nos odeurs individuelles. En fait, les odeurs, elles nous entourent constamment. Il y a seulement besoin d'y porter attention. Alors ça aussi, ça va faire en sorte que ben, on a envie de manger ou pas. Oui. Parce que quand on perçoit une odeur de nourriture agréable ou familière ou votre fameuse odeur de pain, oui. Eh bien, sachez qu'il se passe des choses dans votre ventre.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui, dans votre ventre, ben, y a l'estomac qui va sécréter automatiquement des sucs gastriques et des enzymes pour se préparer à l'arrivée de l'aliment. Alors, ça se fait automatiquement comme ça. Et même quand on voit un aliment, ben, ça a le même effet sur notre estomac. Et même notre cerveau va commencer à sécréter certains composés pour préparer notre corps à manger et à boire. Alors, tout ça, ça se fait automatiquement et ça prépare vraiment la digestion des aliments.
Vraiment, c'est fou comment tout est lié, hein?
Eh oui, oh, c'est bien fait quand même, hein?
Ouais.
Oui. Et puis, une autre chose aussi dont j'aimerais vous parler, c'est que notre sensibilité aux odeurs, elle varie dans le temps.
C'est-à-dire?
Je vous explique. Au début d'un repas, on a une très grande acuité à percevoir l'odeur et le goût des aliments et des boissons.
Oui.
Mais à mesure que le repas progresse, on les perçoit de moins en moins. Et ça, ça a été testé par des scientifiques qui ont nommé ce phénomène la satiété sensorielle.
Ah.
Autrement dit, la prochaine fois que vous allez manger un repas, que vous allez boire une boisson, essayez de penser un instant au goût de la première bouchée et de la première gorgée. Ce goût-là, il est vraiment au maximum de notre acuité gustative.
Oui, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le repas, ou avec, ça diminue quoi.
Ça devient de moins en moins agréable.
Ok.
Intéressant, non?
Oui.
Et ça, ça nous prépare, si on se donne le temps de bien de manger, le temps, ça nous prépare à arrêter de manger.
Ouais.
Mais
ouais.
Quand on a faim ou qu'on a l'estomac vide, eh bien, on trouve l'odeur de la nourriture.
On parle d'une faim normale, pas d'une faim de loup, hein?
Ah ben non, une faim normale.
Voilà.
C'est pas arrivé avec une faim de loup.
Oui.
Bien d'où une faim de loup.
Ouais.
C'est intéressant.
Ouais.
Donc, c'est ça. Donc, on trouve l'odeur de la nourriture et le goût aussi beaucoup plus agréable quand on a une faim de loup, une faim normale et l'estomac vide que la même odeur dans un estomac plein. Donc, avoir faim, ça aiguise les sens et ça rend extraordinairement agréable l'odeur et le goût des aliments. Donc, si vous voulez aller faire les courses, eh bien, essayez de manger un petit quelque chose avant, de façon à ne pas trouver les aliments trop attirants. N'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Faut jamais aller faire les achats, l'épicerie, le ventre creux.
Ben, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Ah, je comprends.
Le plus possible.
Mais tu sais, depuis que tu es avec nous, tu fais ces chroniques de nutrition, Louise, je t'ai dit que je me dis quelquefois, non, il va falloir que j'oublie ce que Louise me dit, sinon je risque de rater mon plat.
Oh, quand même.
Non, je rigole. On rigole.
Mais juste une petite chose comme ça.
Oui, c'est vrai, je fais beaucoup plus attention.
Oui, parlant de la première gorgée.
Oui.
Il existe un livre, et si ma mémoire est bonne, ça s'appelle « La première gorgée de bière ». Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Philippe Delerme qui aurait écrit ce livre.
Oui.
Alors, c'est un tout petit livre qui vous parle de la première gorgée, la première bouchée, et qui montre à quel point on rate souvent des occasions de bien apprécier les aliments, de bien apprécier la bière, le vin et même l'eau qui a un certain goût en ne portant pas attention aux premières sensations qu'on éprouve on mange.
Mais ça, même sans, on le fait même sans le savoir. Moi, quand j'ai vraiment soif, Louise, la première gorgée d'eau ou bien de bière ou bien je ne sais quoi, parce que c'est ce que je bois le plus souvent, l'eau, c'est la meilleure.
Ah oui.
De l'eau, surtout en été quand il fait chaud, la première gorgée d'eau fraîche.
C'est ça.
Mmh, Ensuite, la deuxième gorgée, et puis bon, ben, ça continue, quoi. Après, c'est, comme tu le dis, l'intensité diminue au fur et à mesure qu'on...
Absolument. Et ça, ouais. C'est un phénomène tout à fait normal qui a été étudié scientifiquement.
Voilà. Alors, les deux dernières minutes qui nous restent, Louise, qu'est-ce que tu...
Déjà, donc...
Oh oui, ça va tellement vite.
Oui, ça va vite. Alors, pour clore ma chronique d'aujourd'hui, j'aimerais partager un livre en lien avec ce que je vous ai dit.
Oui.
Qui s'appelle « Le parfum ». En fait, c'est un livre traduit de l'allemand « Das Parfum » de Patrick Süskind. Alors, c'est l'histoire d'un genre de monstre.
Patrick Süskind, oui.
Oui, Patrick Süskind. Mmh. Et oui, et c'est un livre qui a été publié dans les années 80, mais qui est encore très, très actuel. Mmh. Il nous parle d'une personne qui avait un nez unique et qui pouvait percevoir les odeurs plus que tout au monde, et qui croyait qu'en maîtrisant les odeurs, il arriverait à maîtriser le cœur des hommes. Alors, je ne vous en dis pas plus. Ce livre a été porté à l'écran, et c'est un beau petit bouquet, une belle petite lecture d'été qui va vous plonger dans l'univers du parfum.
Le nom me dit quelque chose. C'est ce qu'il nous avait dit de l'enfant sucré, si on veut traduire littérairement.
Ah, ben oui.
C'est bien, c'est bien. Un non, bon, le beau garçon, quoi. Le beau. Voilà, un suskin. Sus, ça veut dire sucré. Kin, c'est enfant. Voilà.
Ah, c'est bien.
Voilà, c'est notre typiquement voilà, allemand. Donc, ouais.
Petite lecture pour connaître le parfum, dont je vous reparlerai dans une prochaine chronique.
Oui. Alors, oui. Oh là, vraiment, je vais te dire quelque chose avant de te laisser partir. Bon, moi, je depuis que tu, comme je te dis, tu fais les chroniques, je fais de plus en plus attention quand je. Surtout à l'odorat, au goût, à la couleur, à l'odeur. Mais comme je dis en m'amusant, bon, je vais essayer d'oublier un peu pour ne pas trop harder mon repas qui est en face de moi.
Oui. Et l'apparence.
Et l'apparence aussi. Ben je ne sais pas si Maurice voulait ajouter quelque chose.
Oui.
Ok, d'accord. Okay. Bon, c'est juste, voilà, parce que c'est une affaire de... On est tous concernés, hein, cette affaire de goût, d'odorat, de mémoire, l'affaire de sens. Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, le lundi, à la même heure.
Avec grand plaisir.
Allez, belle fin de journée à toi.
À toi aussi, au revoir.
Au revoir. Fakir, Rituals. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, rapidement, je vais parler un peu de la grande victoire samedi en fin de semaine du CF Montréal. Le CF Montréal a tenu le coup, revenu au score deux fois, 2-0, 2-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 à la 87e minute. Je parle de soccer, bien sûr. Voilà, le CF Montréal, c'est l'ancien nom, c'était l'Impact Montréal, pour ceux qui ne le savent pas. Ah, ils ont changé de nom. Oui, c'est le club football de Montréal. 5-4, le Cincinnati, c'était leur retour, le premier match à la maison ici. Bravo à ces garçons. J'ai vu le résumé du match en 10 minutes. L'entraîneur doit faire beaucoup de choses de travail au niveau de la défense et du gardien de but qui n'était pas vraiment dans son assiette. Le deuxième but, c'était de sa faute. Voilà, ça ne devait pas aller. Heureusement que les attaquants n'ont pas baissé les bras. Ils ont foncé, ils ont égalisé, ils ont mêlé au score. Et puis le cinquième but à la 87e minute de jeu. Voilà, bravo. On attend ce qu'ils vont nous offrir pour le match prochain. C'est bientôt. Alors, JO de Tokyo, l'équipe de football allemande quitte le terrain après des insultes racistes. C'était le samedi. L'un des joueurs allemands, Jordan Toro Nouringa, aurait été victime de propos racistes lors du match face au Honduras. Voilà, ça s'est passé samedi là-bas, à la 85e minute de jeu. L'équipe allemande a dit non, ça suffit, on ne tolère pas ça, même si c'est un match de préparation, même si c'est un match amical. Toute l'équipe allemande a quitté le stade, le terrain de jeu, pour dire bye bye. Ça ne se permet plus des choses comme ça aux Jeux Olympiques. Voilà, merci à vous, à tous les membres de l'équipe. J'espère que ça va servir d'exemple à d'autres. Et la délégation hondurienne du Honduras dit « C'est un malentendu, il n'y a pas eu de propos racistes. » On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission. On va revenir juste après la musique, la pièce musicale et la petite pause publicitaire. On va en musique. Ok. Alison, non. C'est bien ça. Feu Chatterton, avant qu'il n'y ait le monde.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi s'accroire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. So cœur ne va pas plus vite qu'avant. 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 Mon sang est demeuré froid. Mon cœur. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Restez à l'écoute. On vous revient tout de suite après la pause publicitaire avec Kevin Gauthier, conseiller aux communications du BAC Jean Trapeau. A tout à l'heure.
Festival avec Fulgence Blas.
be there. Hold you tight to me. Oh, when you're alone, I'll be there by your side, baby.
Alison Russell, By Your Side. Voilà, on a déjà notre invité qui est avec nous au téléphone. Voilà, il va nous parler. C'est le conseiller aux communications du PAC, Jean Drapeau. D'ailleurs, je, avant de lui donner la parole, lui dis bonjour. D'abord, je lui dis bravo. Ils m'ont fait découvrir la guinguette du PAC Jean Drapeau. J'étais là-bas le vendredi.
Ah oui?
Ouais. Bonjour, Kevin Gauthier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être là. Vous m'aviez reçu là, il y a quelques mois pour parler de notre événement, les Week-ends du Monde. Puis ça me fait plaisir de revenir aujourd'hui pour vous parler un peu plus du parc et de sa programmation estivale pour la saison 2021.
C'est ça, ce majestueux site du parc Jean Drapeau que je connais. Je ne connais même pas les deux tiers. Hein. Ça, si je dis que je connais les deux tiers du parc, je suis un menteur.
Ben, écoutez, même moi, avant d'intégrer officiellement l'équipe du parc Jean Drapeau, je connaissais pas la totalité de tout ce qui s'y faisait. C'est assez impressionnant.
C'est impressionnant. Wow.
Ouais, effectivement. Et à chaque fois que j'ai des collaborateurs avec moi sur le site, là, ils sont toujours ébahis.
Puis oui.
Je vous dirais que le terme trésor caché ressort assez souvent.
Oui, oui. On va commencer par votre nouvelle naissance, là, la guinguette du parc Jean Drapeau. Cette buvette extérieure aux abords du fleuve avec une programmation. J'étais là-bas le vendredi soir, j'ai assisté jusqu'au dernier spectacle, là, ouais.
Non, oui, c'est ça, on avait deux groupes en prestation musicale à la guinguette du parc Jean Drapeau. Donc, c'est un partenariat qu'on a fait avec les gens de la lutinerie
qui
s'occupent du village de Noël qui se passe à Montréal. Et on les a invités, en fait, à venir au parc pour installer la guinguette. Puis peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec le terme, je dirais qu'une guinguette, c'est comme une buvette extérieure, un espace public là, où il y a une scène, il y a un petit restaurant végétalien, il y a des endroits pour se poser, prendre un verre, manger une bouchée entre amis.
C'est
donc, c'est super convivial. Puis comme vous l'avez dit, il y a de l'animation, il y a des shows d'humour, mais il y a aussi des performances musicales.
C'est à l'île Sainte-Hélène.
Oui, exactement. Donc, à proximité du métro Jean Drapeau, on marche en direction du fleuve et quand on arrive dans la zone du quai de la navette fluviale, où d'habitude il y a la navette, ben la zone de la guinguette est aménagée à cet emplacement-là.
Oui, oui, à l'image d'une station balnéaire estivale. Wow.
Ouais,
voilà, quand exactement. Je suis arrivé là, je me croyais quelque part là-bas d'autres. je me suis dit, mais quand j'ai vu la programmation d'invités, je me suis dit, tiens, je vais en parler avec Kevin Gauthier, le responsable de communication. Non, mais c'est vrai. Et puis, bon, ben, on va parler un peu de la plage à Montréal. Cette plage là-bas au cœur du parc Jean Drapeau qui ça date pas d'hier quand même, ça date de 1989 à 90 par là, si je me trompe pas.
Oui, exact. Ben, c'était la vision de l'architecte paysagiste Frédéric Todd qui avait rêvé cette plage et qui finalement a été ce projet-là a été mené à terme là, par la ville de Montréal. Quelques années plus tard. Donc, nous, on est toujours responsable, la société du parc Jean Drapeau, d'administrer, de gérer, d'entretenir.
C'est vous, vous qui la gérez. Oui.
Exactement. Donc, on a cette plage-là qui ouvre à chaque saison estivale et qui propose toutes sortes d'activités, autant pour la famille que les 18-35 ans. Donc, c'est très grand public. Il y a une foule de choses qui se passent là-bas. Je peux vous en parler pendant plusieurs minutes.
Allez-y. On va parler de la superficie, combien de tonnes de sable qui a été utilisé, combien de pluies d'arbres, ou bien combien d'arbustes. Parce que je suis allé me promener sur votre site là pour voir tous ces renseignements là-bas. Ah, je me suis dit, waouh, quel beau travail qu'ils ont fait dans les années 90 comme ça, hein, au fait.
Oui, c'est ça. Puis c'est super impressionnant d'arriver dans l'île Notre-Dame, qui est aussi une île qui a été construite là, de toutes pièces, puis de découvrir qu'à l'intérieur de cette île-là, il y a une plage. Donc, c'est assez... c'est vraiment un décor là, unique qu'on a à proximité du centre-ville de Montréal, mais d'autres agglomérations urbaines autour. Donc, à cette plage-là, mais maintenant, nous, on essaie de l'animer comme on peut. On a un parcours de structure gonflable qui s'appelle Aquasila, où est-ce que là, les enfants peuvent s'amuser dans un parcours à obstacles qui est directement installé sur l'eau. On fait affaire aussi avec d'autres partenaires comme KSF ou Éco-Récréo qui louent des pédalos, des kayaks. Donc, on peut partir vraiment en mode exploration. Puis, on a des canaux qu'on appelle les lagunes, donc qui permettent vraiment de s'aventurer à l'intérieur du parc des îles. Donc, c'est une boucle qu'on peut faire là en paddleboard, en kayak, en pédalo. Et puis, ben c'est ça, cette plage-là, elle regorge d'activités. On a des terrains de volleyball. Il y a aussi une terrasse avec un restaurant là et un bar pour prendre un verre, manger une bouchée.
Oui,
donc, c'est
oui.
vraiment une expérience complète. Là. C'est sûr que les gens qui viennent à la plage n'ont pas le temps de s'ennuyer.
Mmh. Oui, oui, oui. Et puis, bon, ben, en chiffres, si on veut voir rapidement la superficie, c'est 122 000 mètres carrés, donc 15 000 mètres carrés représentent la zone de Méliade. Et puis, 600 mètres de long, bah, 25 mètres de large. C'est pas petit, hein?
Non, c'est ça. Ça peut accueillir quand même beaucoup de gens. Puis c'est ça que je dis qui est impressionnant quand on arrive sur le site. Je pense qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait ce grand plan d'eau entouré de verdure en plein milieu de l'île Notre-Dame puis du parc Jean-Drapeau.
Plus de 500 arbres.
Quand même.
30 000 tonnes de sable.
Ben oui.
Et plus de 2500 arbustes. Mais je vous dis bravo vous à votre équipe. Hein, vraiment le travail que vous faites là, vraiment c'est ouf. Et puis l'eau qui est puisée, la filtration est naturelle. L'eau puisée dans le fleuve Saint-Laurent est filtrée par 120 000 plantes aquatiques.
Oui, ben c'est ça. En fait, c'est que l'eau, elle est récupérée directement du fleuve et puis ensuite, elle est filtrée naturellement par ces plantes aquatiques-là. Donc, elle va faire une première filtration, si on veut, là, de nombreux déchets qui feraient en sorte que la qualité de l'eau ne serait pas la plus idéale pour se baigner en temps normal.
Oui.
Mais là, on a cette première filtration-là qui se passe, qui arrive en fait dans le plan d'eau qu'on connaît là, comme la plage Andorée. Mmh. Et nous aussi, on a une usine de filtration d'eau qui injecte du chlore pour stabiliser un peu justement l'eau puis offrir la meilleure qualité possible pour les baigneurs qui viennent se détendre ou s'amuser à la plage Andorée.
Oui, OK. Alors, on va faire une petite pause musicale, Kevin. Et puis, Kevin, on va revenir pour parler un peu de la biosphère, le dôme, tout ça, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'impressionnant au sein du parc Jean-Drapeau.
C'est un emblème.
C'est le mot, c'est le vrai mot, ça. Allez, on va en musique avec Master KG Jérusalem, le tube qui a fait tabac en 2020 avec la chanteuse Nosembo. D'ailleurs, ils sont en bisbille parce qu'elle n'a pas reçu de sous depuis là. Et pourtant, le tube a fait le tour du monde durant toute la pandémie en 2020. On écoute Jérusalem.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami ai kolana buso ami au kolana kilo ndoloze su hamenami dau yami ai kolana buso ami au kolana kilo ndoloze.
Ilondoloze, zoo. Ya voy a mí, al colana, buso a mí, a un colana.
Kilo no lo sé, su hambre na mi. Jerusalema, ikayala mi. Jerusalema, ikayala mi. Ilo noloze, uhambe nami. Zumangishi ilana, dao yame, ayikolana. Buso wame, aukolana. Ilo noloze.
J'espère que Mastakeji et la chanteuse Ndossembo vont trouver une solution à leur litige pour qu'elle puisse toucher sa part. Sinon, ce tube qui a fait le tour du monde, ouais, avec les millions, les milliards, le million de vues sur YouTube, tout le monde a vu ça, les vidéos, toutes les familles faisaient les vidéos. Allez, on revient, je reviens avec mon invité, Kevin Côté, conseiller communication du Parc des Jean-Drapeaux. On va parler maintenant de la biosphère, le dôme, voilà. Alors, on dit merci à ce grand monsieur Richard Bourmister Fula, cet architecte, designer, inventeur, philosophe, en même temps écrivain. Hein, il fait tout.
Ah oui, il avait tout un CV.
Oui, il est... ça donne le vertige, son CV, lui. Alors, parlez-nous un peu de ce don. C'est après l'espoir que ce truc-là, ce dôme est resté chez nous ici. Hein.
Oui, ben c'est ça. Comme j'expliquais, bon, c'est un emblème chez nous. C'est un icône très fort qu'on a. Là. Je pense qu'automatiquement, les gens, quand ils voient le dôme de la biosphère, pensent automatiquement au parc Jean-Drapeau.
Oui.
Puis on le sait, ben en fait, ce bâtiment-là, comme plusieurs qui sont encore là sur le site, sont des vestiges de l'Expo 67.
Oui.
Ce fameux dôme géodésique là, qui a pris feu, dont la membrane s'est embrasée. Et bon, il est resté seulement à ce métallique.
Oui.
Mais maintenant, je pense que ça fait la beauté du bâtiment en soi. Donc, le bâtiment, en fait, de la biosphère a abrité pendant plusieurs années le musée de l'environnement là, qui appartenait au gouvernement du Canada.
Oui.
Donc, il y avait de nombreuses expositions sur les changements climatiques ou juste l'environnement, l'écologie, la biologie qui étaient présentées dans ce musée-là. Mm-hmm. Et si on a suivi un peu l'actualité récemment, on sait que le bâtiment maintenant a passé aux mains de Espace pour la vie, donc de la ville de Montréal. Et c'est cette nouvelle équipe qui est en train de travailler activement à la réouverture de la biosphère. Je peux pas vous partager encore la date exacte là, où le musée va réouvrir, mais ça devrait se faire au courant du mois d'août.
Oui, bientôt, là, le mois prochain.
Ben, en tout cas, je peux pas vous donner plus d'informations que ça, mais...
On va le savoir le plus tôt que possible.
On va suivre ça activement. On a bien hâte là, que les gens puissent recommencer à venir voir de nombreuses expositions sur le site.
Oui.
Donc, voilà.
Donc, la ville de Montréal est devenue gestionnaire.
Exactement.
OK. Alors, mais moi, c'est l'histoire même de l'Expo, le don, c'était mandaté, il a été mandaté par le United States Information Agency en 64, ce monsieur-là, oui, voilà.
Exactement, et c'était le bâtiment officiel des États-Unis.
Le pavillon des États-Unis à l'Expo 67.
C'est ça, exactement. Et puis, de l'autre côté, en fait, du chenal Lemoine, donc là, on est sur l'île Sainte-Hélène avec la biosphère, et si on se transfère de l'autre côté sur l'île Notre-Dame, qui est construite de toutes pièces pour l'Expo 67, ben, on retrouvait le bâtiment de l'URSS, et ce bâtiment-là était séparé par ce qu'on appelait la passerelle du cosmos, parce qu'à ce moment-là, en fait, ces deux puissances mondiales étaient à la course là, pour aller dans l'espace.
Il y avait la guerre froide aussi.
Et c'est ça, il y avait un gros climat très tendu entre ces deux pays. Donc, on a appelé ça, la passerelle est toujours actuelle. On l'utilise encore au page en drapeau et on l'appelle encore la passerelle du cosmos.
Oui.
Et son nom vient de ça, justement, la séparation qu'il y avait entre le pavillon des États-Unis et le pavillon
russe.
Exactement.
Voilà. Alors, on va parler un peu de la réouverture complète du lien cyclable pour les vélos, les cyclistes, les amateurs de vélos.
Oui, ça se fait entendre.
Ce qui relie Montréal, Saint-Laurent, Saint-Lambert, escale du pont Champlain, Sainte-Catherine, depuis le 10 avril.
Exactement. Donc, on a fait la réouverture et c'est un lien qui est vraiment utilisé abondamment pendant la saison estivale. Donc, toutes les personnes qui sont de Sainte-Catherine à Saint-Lambert ou qui veulent passer par le pont Champlain utilisent le lien cyclable. Et il y a une partie du lien cyclable qui passe à travers le parc Jean-Drapeau.
Oui.
Et qui amène ultimement les gens à Montréal. Donc, ça, c'est nous qui s'occupons d'une partie de l'entretien de ce lien cyclable-là, du moins celui-là qui se retrouve au parc.
Oui.
Donc, c'est une voie qui est utilisée par vraiment là, de nombreux cyclistes. C'est aussi une superbe aventure. Là, si on a des cyclistes qui nous écoutent, si vous n'êtes pas encore allé faire le chemin du lien cyclable, c'est magnifique. Vous êtes sur la voie maritime. C'est vraiment, ça vaut le détour.
Oui, c'est beau. Enfin, mais j'ai vu des cyclistes, même sur le pont Champlain, là, je me suis dit, oh! Est-ce que moi, pour l'instant, j'ai pas de vélo, mais je peux.
C'est sûr, ça serait probablement plus pratique.
Ouais, donc j'étais à la voiture, c'est très proche. À vélo comme en voiture, c'est très proche. Même en métro aussi, hein. c'est très proche du centre-ville de Montréal, sincèrement.
Tout à fait.
Voilà, il ne nous reste pas assez de temps. On a encore 2 minutes là. On va parler rapidement du complexe aquatique.
Oui, ben en fait, on a de superbes piscines, 3 pour être plus précis, là, au parc Jean-Drapeau. On a un grand complexe aquatique. Il y a une piscine récréative où on invite les gens à venir pour le bain libre ou faire de la nage en corridor pour l'entraînement. On a une piscine de compétition qui est réservée à des clubs sportifs et on a aussi un bassin de plongeon. Donc là, encore une fois, il y a des clubs d'athlètes là, qui pratiquent le plongeon qui viennent s'entraîner régulièrement au parc. Donc, si vous n'êtes pas encore venu au complexe aquatique, c'est un superbe... une superbe installation. La vue est magnifique. Justement, on parlait de la biosphère. On la voit très bien depuis les piscines.
Oui.
Donc, on est à capacité réduite un peu à cause de la situation avec la pandémie. Donc, il y a 320 personnes qui peuvent venir le matin et 320 l'après-midi. Ah,
toutes les mesures sécuritaires, sanitaires, sécuritaires sont mises en place.
Oui, exactement.
Aussi pour la plage, hein? On ne laisse pas rentrer des gens comme ça venir bonder la plage, là.
Ben, pour plusieurs des activités sur le site, il y en a qui sont en pratique libre, mais pour le complexe de la plage, effectivement, il faut réserver en ligne avant de se présenter.
Okay.
Donc, il y a une billetterie à laquelle vous pouvez acheter vos billets pour réserver votre place. Ça, c'est accessible à travers le parcjeandrapeau.com. Là, vous allez sur la page du complexe ou de la plage et vous pouvez vous procurer un billet là, facilement.
OK. Wow! Quel beau travail. Je vous dis merci beaucoup. Avec vous et votre équipe, toute l'équipe qui travaille là-bas à d'arrache-pied. Et moi, ce que j'ai vu là la dernière fois, votre nouvelle, je vais dire votre nouveau bébé, la guinguette.
Ouais,
à l'île Sainte-Hélène. Ça va me pousser à repartir là-bas tant en temps en fin de semaine pour m'évader, me pète dans ce parc que j'adore. Merci beaucoup, Kevin Gauthier, conseiller aux communications du Parc Jean-Drapeau. Au plaisir de vous réentendre.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.
Encore quand je te dis. plus jamais à ce jour d'oublier. Tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis, je ne vois plus que toi.
Je ne vois plus que toi, toi et le soleil. Le marathonien, c'est toi et le soleil. Voilà, belle pièce, ensoleillée pour l'été bien sûr. On a la fin de l'émission d'aujourd'hui. Comme ça, on dit merci à notre chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault, qui est venue nous parler de la mémoire, cette affaire de sens, le lien entre l'odorat, le goût, ils sont tout est lié. Hein. Voilà. Voilà, je vais me pincer le nez aujourd'hui avant de manger, de commencer à manger pour voir ce que ça donne. Et merci à notre invité, Kevin Gauthier, conseiller aux communications du parc Jean Drapeau, qui avait nous donné un aperçu général de tout ce qui se passe là-bas dans ce grand parc. Voilà, que je connais très peu, je ne connais même pas les deux tiers, même le tiers, peut-être ça va. Ouais, je suis allé quelques fois, le vendredi aussi j'y étais. C'est à découvrir pour tous ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien sortir de Montréal sans aller trop loin. Voilà, merci Maurice. Voilà, on est en début de semaine. Prenez soin de vous. Merci à vous qui nous suivez depuis le début de cette émission estivale. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes. Bonne soirée et à demain. Et je vous dis ciao.